toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Non.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, ce maillot
connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Canu, il est 19h02 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi, l'émission essentielle pour tout savoir sur l'actualité, ou au moins ce qui est important. Aujourd'hui, on va commencer par vous parler.
On va parler des familles qui sont à la rue avant Envelin et du collectif Jamais Sans Toi qui se mobilise.
On ira voir ensuite ce qu'il se passe du côté de l'Amphizède.
On va vous présenter un collectif qui s'est créé récemment et qui réunit des professionnels de l'urgence sociale.
Puis dans la rubrique nationale, il y aura un retour sur la feuille de route du gouvernement en matière énergétique.
Avant d'aller du côté de l'Aveyron pour vous parler d'une lutte contre un projet d'éolien.
On vous parlera également, peut-être que vous en avez entendu parler dans les informations ailleurs, si vous êtes infidèles, de la loi anti-casseurs qui est portée par la majorité.
Ensuite, on ira du côté de Toulouse pour vous parler des gilets jaunes.
Et attention, international, on verra comment. En Italie, Salvini sera peut-être jugé pour le gros bâtard avoir bloqué des migrants et des migrantes en mer.
Et ensuite, on prendra le risque et le plaisir de tenter un insert téléphonique pour vous parler de la situation en Macédoine.
Puis on parlera de la jeunesse et le monde du travail contre Orban en Hongrie.
Pour finir par le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends ?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Et on commence cette rubrique spéciale logement, ou plutôt manque de logement, en vous parlant de l'actualité à Vau-en-Velin, où depuis 2 mois, les familles et les professionnels des écoles de Vau-en-Velin se mobilisent en soutien aux familles et aux élèves qui se trouvent sans hébergement. C'est depuis octobre, novembre, que des collectifs Jamais sans toi, se sont créés dans les écoles de Vaux-en-Velin, parce qu'au début de l'hiver, on comptait 49 enfants qui dormaient à la rue, ce qui constitue à peu près une vingtaine de familles, voire un peu plus. Du coup, il y a plusieurs collectifs qui sont créés dans chaque école. Et ce qui est plutôt nouveau, c'est que ces collectifs ont réussi à se retrouver ensemble et à créer une lutte qui concerne toute la commune de Vaux-en-Velin. Et ce qui fait que aussi des écoles où il n'y avait pas des élèves à la rue se mobilisent et ont proposé des occupations dans leurs écoles. Cette lutte a pris la forme plutôt d'occupation dans les écoles. Il y a une grosse occupation de plusieurs écoles en même temps le 3 décembre dernier. Il y avait 8 écoles au total à Vaux-en-Velin qui avaient été occupées. Ces occupations permettent de mettre à l'abri les familles pendant au moins une nuit dans les gymnases et aussi de médiatiser cette problématique que tout le monde connaît, mais qui n'arrive pas à se débloquer. Et ça, depuis plusieurs années. Là, on parle des derniers mois, mais en fait, tous les hivers, c'est un peu la même chose. Et du coup, depuis les fêtes d'hiver, il y a une occupation par semaine qui est faite dans l'une des écoles de Vaux-en-Velin. En fait, il y a une espèce de liste d'écoles. Chaque semaine, c'est chaque mardi soir, il y a l'une des écoles qui occupe, du coup, avec les élèves à la rue de tout Vaux-en-Velin, avec les professionnels, avec les familles. Au-delà de ça, il y a aussi des goûters solidaires qui sont organisés et qui permettent, avec les sous récoltés, de payer quelques nuitées d'hôtel aux familles. Et du coup, la dernière occupation, c'était mardi dernier à l'école Courcelles. Il y a plusieurs médias qui sont intervenus, qui ont fait des petits reportages, ce qui permet, mine de rien, de faire avancer cette histoire. Parce qu'il faut savoir que malgré les appels au 115 ou les contacts avec la préfecture ou la mairie, en fait, depuis 2 mois, il n'y avait aucune solution qui était proposée à ces familles jusqu'à il y a 2 semaines. Du coup, d'un côté, grâce à la médiatisation des occupations et aussi parce qu'il y a le plan froid et le plan grand froid qui sont petit à petit et très lentement mis en place par la métropole, il y a des solutions temporaires qui ont été proposées à une partie de ces familles. Une seule s'est vu attribuer une place plan froid, donc jusqu'au 31 mars. Les autres sont actuellement accueillies en gymnase. Du coup, sur plusieurs gymnases, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont dû changer 3 gymnases différents sur 3 semaines et bien souvent très loin de Vaux-en-Velin, par exemple à Brignais. Et du coup, dans des conditions d'accueil extrêmement précaires et extrêmement traumatisantes pour les enfants. Il reste 12 familles et du coup 29 enfants qui n'ont pas eu aucune proposition d'hébergement et qui se trouvent toujours à la rue à Vaux-en-Velin, malgré le froid et la mobilisation. Du coup, les occupations continuent et la préfecture a accepté enfin de recevoir une délégation des collectifs Jamais sans toi hier. Du coup, la revendication qui a été présentée à la chef du cabinet du préfet, c'était la réquisition des logements de fonction vides, les logements de fonction des écoles. Il y en a 11 qui ont été recensés, donc il y en a sûrement plus, mais au moins 11 logements qui vont du T1 au T4 qui sont vides et qui sont annexés aux écoles sur la commune de Vaux-en-Velin, donc qui permettraient largement d'accueillir toutes les personnes à la rue qui sont en lien avec cette mobilisation. Et le collectif a bien signifié au préfet que les occupations vont continuer tant qu'il y aura des familles à la rue. Du coup, voilà, normalement, la préfecture va donner une réponse sous peu. En tout cas, si toutes les familles ne sont pas mises à l'abri, la prochaine occupation aura lieu mardi prochain dans une autre école à Vaux-en-Velin. Et on vous tiendra au courant, mais on souhaite à tout le monde un bon courage et une bonne lutte.
Bon courage, oui. Et du coup, face à cette précarisation du logement, des gens n'ont pas entendu l'État ni les pouvoirs publics pour s'organiser. C'est notamment le cas à l'Amphizède depuis décembre 2017. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous reparle de l'Amphizède aujourd'hui? Parce que peut-être que 350 personnes, du coup, les 350 personnes qui sont actuellement hébergées vont peut-être se retrouver à la rue. Alors, l'Amphizède, si vous n'aviez pas tout suivi, c'est un bâtiment qui a été ouvert en décembre 2017 suite à l'occupation de l'Amphicé à l'Université de Lyon par plusieurs dizaines de migrants et migrantes à la rue et donc qui est aujourd'hui menacé d'expulsion. Ce lieu, qui appartenait aux sapeurs-pompiers, et qui appartient aujourd'hui à la métropole, héberge au moins 200 personnes, dont des familles et de nombreux demandeurs et demandeuses d'asile, que l'État doit légalement héberger. Donc il y a une date de procès qui est prévue du coup au tribunal d'instance de Villeurbanne le lundi 4 février à partir de 9h. Et il y a un appel à rassemblement le plus nombreux et le plus nombreuse possible qui est déjà lancé à partir de maintenant. Pour ça, il faut s'organiser pour le procès, mais il faut aussi s'organiser au-delà du procès. Et donc le collectif AmphiZ manque de force pour continuer à organiser la solidarité de base, mais également envisager une riposte politique. Donc pour grossir un peu ses rangs, pour avoir plus de force, il convie chacun, chacune à une assemblée générale la plus large possible ce dimanche à 17h au squat L'Amphizette qui se trouve au 12 rue Baudin à Villeurbanne pour pouvoir s'organiser du coup pour le procès du 4 février mais aussi plus largement pour le droit à l'hébergement à toutes et tous. Et voilà, et du coup, il y a des gens qui luttent du coup, au sein du collectif AmphiZ contre la précarité vis-à-vis du logement, mais il y a aussi des travailleurs et des travailleuses sociales qui s'organisent.
Alors, c'est un nouveau collectif donc, qui représente une cinquantaine de travailleurs et travailleuses sociales de différentes associations de l'urgence sociale qui ont décidé de réagir face à des constats alarmants. Il y a deux personnes ce soir dans le Canu Info qui peuvent nous parler de ça. D'abord, vous vouliez parler du manque de places d'hébergement et de logement.
Et ben ouais, parce que du coup, en fait, à Lyon, il y a à peu près, en fait, en gros, 2000 personnes qui appellent toutes les semaines le 115 et qui n'ont pas de réponse, se trouvent sans solution. Mais donc, du coup, ça, c'est les 2000 qui appellent toutes les semaines. Mais il y a aussi, en même temps, environ un peu moins de 8000 personnes qui sont en demande d'hébergement et qui ont fait une demande, du coup, à la maison de la veille sociale, qui est l'endroit où on fait une demande d'hébergement quand on est sans logement. Et qui, du coup, ben, là aussi, se retrouvent, du coup, en attente. Donc, en fait, on peut compter à peu près 8000 personnes qui font une demande. Et sur on prend en plus en compte toutes les personnes qui vont pas faire de demande parce que elles ont fait déjà plusieurs demandes et puis aussi parce que ça prend énormément de temps ou parce que elles ont d'autres solutions certes précaires mais qui leur permettent de tenir en attendant. Et du coup ces demandes en plus elles prennent énormément de temps avoir une solution en fait parce que du coup on peut avoir une attente qui peut durer jusqu'à 3 ans en fait en fonction de sa situation.
Alors, peut-être juste pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le 115 quand tu dis appeler le 115 ?
Et alors c'est le numéro d'urgence, en fait, un peu comme le 15 ou le 17 ou le 18, en fait, où on appelle. Et là, il y a des personnes qui nous répondent et qui pourraient nous proposer théoriquement des solutions d'hébergement.
Et elles travaillent pour qui, ces personnes qui répondent au 115 ?
Et alors elles travaillent pour la Maison de la Veille Sociale. La Maison de la Veille Sociale, en fait, c'est un groupement d'associations, de différentes associations, du coup, de l'hébergement et de l'urgence sociale à Lyon, qui se mettent en commun et qui proposent, du coup, à la fois le 115 et la Maison de la Veille Sociale.
Et donc l'État a délégué à ces associations la prise en charge de l'urgence sociale.
Ouais, c'est un service financé par l'État, mais du coup délégué à des associations.
Et qui a très peu de moyens, donc si on t'entend bien, puisque la plupart des personnes peuvent d'une part pas répondre parce qu'il y a beaucoup d'attente au 115, et d'autre part proposer pas grand chose derrière lorsqu'on appelle et qu'on est dans l'urgence.
Ouais, en gros, du coup, si t'appelles le 115, en fait, généralement, il y a une trentaine ou une quarantaine de places par jour, et c'est juste des mises à l'abri d'une nuit.
Et on se rappelle qu'en 2007, il y avait eu beaucoup de luttes. On se rappelle les tentes des Don Quichotte qui avaient mené au droit opposable à l'hébergement. Donc c'était aussi une loi qui permettait l'inconditionnalité de l'accueil. Donc c'est-à-dire que toute personne qui voulait un accueil, que ce soit des personnes sans papier ou sans droit, pouvait avoir un hébergement. Et là, vous vouliez parler de la remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil ?
Oui, tout à fait, parce que cette inconditionnalité de l'accueil est certes écrite dans la loi, mais bon, elle n'a jamais vraiment existé, parce que dans le Rhône, il y a quand même une distinction entre les places soi-disant insertion auxquelles on peut accéder si, par exemple, on a des papiers et on a des ressources, ou si on pourrait travailler selon la personne qui oriente, et les places qu'on dit urgence, effectivement, toute personne sans condition de ressources ou de situation administrative peut accéder. Donc cette distinction existait déjà, ce qui était quand même contraire un peu à la loi. Et l'une des raisons de cette nouvelle mobilisation, c'est que du coup, dans le Rhône, il y a cette inconditionnalité qui est de plus en plus remise en question, parce que de plus en plus de places, en fait, sont réservées pour des personnes qui sont en situation régulière et qui ont des ressources. Et pour faire, par exemple, un exemple très concret, fin 2018, sur l'agglomération lyonnaise, il y a l'intégralité des places en logement diffus qui étaient réservées à des familles sans condition. Et ben, c'est 962 places urgence deviennent des places insertion, c'est-à-dire que il y a des familles qui sont en situation irrégulière qui attendaient depuis longtemps d'avoir des places dans un logement et en fait qui vont avoir leur demande de juste disparaître dans le néant parce qu'en fait elles vont plus pouvoir accéder à ce type de place. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit par exemple dans le plan froid qui est mis en place actuellement et qui est complètement insuffisant. Il y a cette question de la situation administrative qui permet ou pas à des personnes d'accéder à une mise à l'abri, même temporaire.
Et grâce à la loi Dalo, il y avait aussi la continuité de l'accueil, c'est-à-dire dans les centres d'hébergement, au lieu que les personnes restent une nuit ou deux nuits ou trois nuits, les personnes maintenant restaient jusqu'à ce qu'il y ait une solution adaptée qui soit proposée. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Est-ce que ça existe encore, cette continuité de l'accueil?
Et bah justement, en fait, du coup, la remise en cause en fait, de l'inconditionnalité, et bah, pour conséquence, en fait, la remise en cause de la continuité, parce que du coup, toutes les personnes qui sont en situation régulière et qui du coup peuvent plus prétendre à une place d'hébergement, parce que ces places d'hébergement urgence, donc pour les personnes qui n'ont pas de papier, et bah, sont supprimées. Et du coup, les personnes, elles vont plus pouvoir bénéficier que de mise à l'abri temporaire, en fait, que de mise à l'abri de quelques jours, donc soit dans des hébergements qui sont juste destinés à avoir une nuit, soit dans le cadre des plans froids ou des plans grand froid, du coup des hébergements gymnase, du coup en fait où ça va être un hébergement pour une nuit ou 10 nuits et pas du tout quelque chose du coup sur le temps long qui permet de se poser et puis construire un projet sur l'avenir en fait. Et du coup la conséquence un peu de ça en fait, et ben c'est que ça permet justement d'avoir un taux de réussite et de réponse en fait beaucoup plus important en fait, parce que comme on héberge les gens que pour 10 jours, et ben du coup on fait tourner les gens et du coup on a l'impression d'héberger beaucoup plus de gens que ce qu'on réussit à faire en réalité quoi.
Et est-ce qu'il y a autant de subventions qu'avant ou c'est quoi qui fait que ça change?
Bah, du coup, il y a eu deux choses qui sont passées au même temps. D'un côté, l'État, il semble avoir trouvé la solution miracle. C'est ce qu'ils appellent le logement d'abord, ce qui est devenu la grosse vitrine de la lutte contre le sans-abrisme. Le logement d'abord, c'est quoi? C'est juste l'idée que des personnes qui se trouvent à la rue, elles n'ont pas forcément besoin de passer par un centre d'hébergement, mais s'il y avait plus de logements, elles pourraient tout de suite être très bien dans un logement, ce qui est sûrement pas faux. Mais du coup, ça fait une grosse vitrine pour pas beaucoup de places, pas beaucoup d'accompagnement et des moyens qui sont pas encore très très clairs. Et encore une fois, un dispositif qui est accessible que aux personnes avec des ressources et en situation régulière, donc qui exclut les personnes étrangères sans papier. Mais du coup, au-delà, genre à côté de ces gros financements de cette vitrine qui est le logement d'abord, et ben à côté, il y a une baisse de financement des centres d'hébergement et des réinsertions sociales. En gros, qui sont actuellement la première étape pour quelqu'un qui est à la rue et qui trouve un lieu d'hébergement qui est pérenne et stable. Et du coup, ces centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ils voient leur financement baisser, donc avec des suppressions de postes et des coupes budgétaires, sachant que le logement d'abord ne pourra pas du tout absorber toutes les personnes qui sont à la rue et que déjà, il n'y a pas assez de place et souvent pas assez de personnel pour accompagner correctement les personnes. Et du coup, ça se voit du coup, dans la suppression des postes, mais ça se voit également dans les conditions d'accueil. Du coup, on a parlé de centres d'hébergement de plus en plus collectifs, provisoires, temporaires. Actuellement, il y a un centre d'hébergement pour le plan froid où en fait, il y a des familles qui sont dans un gymnase, qui sont en hébergement collectif dans le même lieu avec des enfants et on appelle ça hébergement. Voilà, les conditions d'accueil qui sont déjà préoccupantes, elles vont forcément s'empirer à cause de cette baisse de financement.
Mais en fait, très concrètement, c'est-à-dire que c'est 100 personnes qui sont dans un gymnase avec des familles, avec juste des lits de camp et aucune séparation. Et du coup, avec le bruit et le bordel qu'on peut imaginer et les difficiles conditions d'accueil. Quoi.
Et c'est quoi vos revendications face à tout ça ?
Eh bien, nous, avant tout, ce qu'on demande, en fait, c'est l'hébergement immédiat de toutes les personnes qui sont à la rue sans conditions d'accès, d'âge, de ressources et dans des conditions adaptées et dignes.
Vous avez grave raison.
Bah, on est cher vénère. Et en plus, on veut en fait, l'application stricte de la loi en fait, sur l'inconditionnalité et la continuité de l'hébergement. Du coup, c'est-à-dire que les personnes soient accueillies sans conditions de ressources de n'importe quoi, et ce, sur le temps long, jusqu'à ce qu'elles trouvent une solution qu'elles préfèrent.
Et on demande aussi l'arrêt des coupes budgétaires pour les centres d'hébergement et la révalorisation des budgets pour tout le secteur de l'urgence sociale. On aimerait aussi que les associations qui opèrent dans ce secteur se positionnent contre ces politiques sociales complètement cassantes. Ensuite, on demande que les travailleurs et travailleuses sociales et les personnes premières concernées puissent avoir leur mot à dire dans ces choix de politique sociale, parce qu'on a rapidement vu, en parlant avec les collègues, que tout le monde, genre tout le monde peut-être pas, mais que quand même on était très 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 nombreux, nombreuses, à trouver tout ça aberrant. Et plutôt que les logements d'abord, on revendique le logement pour tous et toutes.
Et du coup, il y a un certain nombre d'actions et de rencontres en fait, qui vont être convoquées, donc plutôt aux alentours de mars, comme ça, gros teaser. Et du coup, si jamais vous voulez avoir des infos d'ici là, vous pouvez nous contacter, c'est facile, il y a un mail, c'est hébergementendanger@protonmail.com.
Ouais,
bravo, national.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme. Et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et du coup, vu qu'on dit beaucoup du coup dans cette émission, je vais commencer du coup par vous parler du coup de ce qui a été publié vendredi 25 janvier, c'était aujourd'hui, par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui a mis en ligne le PPE. Alors qu'est-ce que c'est que le PPE ? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire le plan, un peu, c'est le retour, enfin, ou plutôt ça n'a jamais été abandonné en matière d'énergie, le retour ou la continuité de la planification économique et énergétique. Et donc le gouvernement confirme les orientations qui avaient été données par Macron fin novembre. À l'époque, on ne l'avait pas trop entendu. C'était le moment, le tout début de ce qu'on a appelé médiatiquement la crise des Gilets jaunes. Et donc il était assez inaudible à ce moment-là sur cette programmation pluriannuelle énergétique. Alors, en gros, il y a une baisse, la prévision d'une baisse de la consommation d'énergie fossile, le report à 2035 de la baisse de la part de nucléaire et un effort relatif et très mesuré sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Alors, d'abord, en lien avec le début du mouvement des Gilets jaunes, dans ce PPE, le gouvernement et donc le ministère de la Transition écologique ne donnent pas du tout de trajectoire sur la taxe carbone, puisque le sujet est soumis au grand débat national voulu par Macron. Et donc, c'est à l'issue de ce débat qu'il y aura une décision franche prise par le gouvernement concernant la fameuse taxe carbone. Quant au nucléaire, la baisse du nucléaire attendra. Alors là, ça c'est un truc qui avait été entériné par Nicolas Hulot, le grand écologiste Nicolas Hulot, qui avait été d'ailleurs ministre du premier gouvernement Philippe, et qui dans les premiers mois avait repoussé la réduction de 50% de la part du nucléaire promise par Hollande, et qu'il avait promis pour 2025, ça avait été repoussé pour 2035, donc 10 ans. Pendant lesquels on allait maintenir encore beaucoup de réacteurs. Alors, à l'exception de la centrale de Fessenheim,
Fessenheim, pardon, en Alsace, qui devrait cesser sa production en 2020. La PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit deux fermetures de réacteurs en 2027 et 2028, donc c'est pas demain, hein. Et deux autres réacteurs pourraient être fermés en 2025 et 2026 si les conditions le permettent, ce qui veut dire en gros, hein, que ça sera au futur gouvernement après élection présidentielle de se prononcer là-dessus. On ne se mouille pas pour le gouvernement Philippe et Macron. Et puis ça sera à EDF de choisir quels réacteurs seront repoussés après 2028 et de proposer des noms dans ceux qui seront à fermer. Donc ce sera EDF qui tranchera parmi quelques sites qui sont proposés par le gouvernement dans ce PPE, parmi lesquels on trouve le Tricastin, le Bugey, Gravelines, Dampierre, Blayé, Cruas, Chinon et Saint-Laurent. Pour le nucléaire, enfin, le PPE nous dit que concernant la création de nouveaux réacteurs, eh bien, il faudra attendre 2021 pour savoir si on en construit de nouveaux ou pas, hein. Vous savez, c'est les fameux EPR, avec lesquels, nouvelles technologies nucléaires, avec lesquelles EDF a de gros soucis de mise en service. Là encore, le gouvernement ne se mouille pas là-dessus et il donnera une réponse définitive, a priori, en 2021. Enfin, pour les énergies dites renouvelables, il y a la volonté pour le gouvernement de multiplier la force de l'éolien et du solaire en France. Il prévoit, hein, ce PPE, de multiplier par 2,5 la puissance installée des éoliennes terrestres et de multiplier par 5 l'énergie solaire. Alors, pour l'éolien terrestre, une grande spécialiste va vous en parler dans un instant concernant une lutte dans l'Aveyron. Et l'énergie solaire, eh ben, on n'a pas énormément plus d'informations sur ce PPE, si ce n'est la volonté, comme je viens de vous le dire, de multiplier par 5. En d'autres termes, donc, si on fait la synthèse de tout ça, on ne ferme pas de centrales nucléaires à part Fessenheim, mais ce qui est annoncé depuis déjà des années, et on multiplie les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on va produire de plus en plus d'électricité en France, et ça en devient presque emmerdant. Alors la France, c'est de loin le pays européen qui produit le plus d'énergie déjà, c'est elle qui en vend le plus à l'étranger, donc on va être obligé d'en vendre encore plus, parce que ça se stocke pas, l'électricité. Et le problème, c'est que ça risque, à force d'en produire beaucoup et d'en vendre beaucoup, ça risque de faire baisser le prix du kilowatt, et donc c'est même pas intéressant vraiment pour EDF. D'où l'idée, pourquoi installer tant d'éoliennes et pourquoi ne pas fermer beaucoup de réacteurs? Concernant les éoliennes, on va vous parler tout de suite de ce qui se passe dans l'Aveyron.
Oui, mais c'est quand même toujours un peu rigolo de regarder quand même ce PPE ne prend absolument pas en compte les mobilisations citoyennes, par exemple, contre le nucléaire. Et on voit aussi que le grand débat national qui nous fait croire, qui nous parle de transition énergétique sur lesquelles on peut se prononcer que sur la taxe carbone, mais du coup, on ne peut pas proposer un autre plan énergétique. Et au-delà de ça, ça ne prend pas non plus en compte l'urgence de la diminution de la consommation pour un gouvernement qui se réclame écologiste. Et c'est assez rigolo de voir, par exemple, là, au Forum économique international de Davos, ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient écologiques, donc ils ont essayé de réduire leur consommation énergétique pour ce forum. Ils n'ont pas réussi puisqu'ils ont battu leur record de 1500 jets privés pour se rendre à ce forum pour améliorer l'économie et l'écologie mondiale.
D'autant plus que, alors là, pour le coup, dans ce PPE, j'en ai pas parlé, mais le truc sur le carbone, c'est vraiment le truc où ils disent qu'ils vont faire le plus d'efforts. Ils veulent arriver à ce qu'ils appellent une neutralité carbone d'ici 2050.
Et on rappelle que la neutralité carbone, ça veut dire qu'on a le droit d'aller polluer ailleurs tant qu'on dépollue près de chez soi.
Tout à fait.
Et donc en Aveyron, il y a une lutte pour l'équité territoriale qui est déclenchée par ces histoires d'éoliennes. Effectivement, il y a un conflit contre un transformateur RTE, donc la filiale d'EDF dédiée au transport d'électricité, et des parcs éoliens industriels. Et cette lutte interroge les rapports entre monde rural et pôle urbain. En lien avec les revendications des Gilets jaunes, des opposants et des opposantes à un poste électrique, lutte pour la justice environnementale à Saint-Victor et Melvieux. Il y a une petite ZAD au milieu des collines et des forêts, tout autour des pylônes, parsèment le plateau rocheux et des lignes haute tension quadrillent le paysage.
On a vu des photos, c'est mignon.
Ça a l'air bien. Et ça, c'est depuis 2015. C'est la commune libre de La Massada, donc ça veut dire assemblée en occitan, qui s'est élevée sur des champs d'élevage de brebis pour s'opposer au poste électrique que veut construire RTE. Il y avait quelques centaines de personnes qui s'y sont retrouvées en septembre pour discuter sur l'éolien industriel au Mexique, le projet de mine aurifère Montagne d'Or en Guyane et d'autres luttes de territoire. Là, en ce moment, en janvier, il y a une dizaine de personnes qui tiennent le lieu. Elles sont protégées par des barricades dans l'attente d'une expulsion. Du coup, elles ne montrent pas leur visage pour échapper à l'astreinte de 2000 euros par jour et par personne notifiée par l'huissier. Pour Nelly, membre de l'association Plateau Survolté, qui combat le projet depuis des années, c'est une atteinte au droit de manifester. Et ils luttent contre la répression aussi. Le transformateur de RTE a été déclaré d'utilité publique en juin dernier et l'entreprise est désormais propriétaire de la parcelle occupée. Les gendarmes passent régulièrement, ils demandent combien sont les personnes, qu'est-ce qu'ils font. Pour empêcher la construction de l'infrastructure, il y a 136 personnes qui avaient acquis la même parcelle au cœur de l'emprise du futur chantier. Mais malheureusement, elles ont été expropriées. Actuellement, il y a encore 39 personnes qui viennent de déposer un recours contre l'utilité publique du transformateur. Donc c'est maintenant, c'est la bataille judiciaire qui est engagée. Le transformateur électrique a déclenché l'entrée dans la lutte, mais c'est aussi à la base contre la destruction des champs de deux familles paysannes, contre la démolition du paysage, contre l'installation de nouveaux mâts éoliens dans un territoire déjà saturé de turbines. Et au fil des assemblées générales et des rassemblements, les revendications sont étendues. Il parle aussi de l'industrialisation des campagnes, de la dépossession des terres rurales et de la métropolisation des territoires. Pour Nelly de Plateau Survolté, l'industrialisation de ce territoire rural est une dépossession. C'est la planification d'une désertification. Donc c'est l'État qui a choisi de vider les campagnes et de laisser les aménageurs faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont fait le choix de défaire les services publics dans le monde rural, de fermer les écoles, les hôpitaux, les maternités et d'installer toute la population dans les métropoles. Contre cette logique, tout l'Aveyron est une zone à défendre. Du coup, il y a plein d'actions dans tous les sens et tous les familiers de La Massada ont naturellement rejoint le mouvement des Gilets jaunes, toujours actifs en Aveyron à la veille de l'acte 11 de cette fin janvier 2019. Alors la question là, c'est à qui profitent les éoliennes, soutenues par les appels d'offres gouvernementaux ? Est-il juste d'un point de vue social et environnemental que des territoires ruraux peu peuplés subissent les dommages d'installations de production d'électricité consommées ailleurs ?
Deux bonnes questions.
Non. En tout cas, pour le secrétaire départemental de la Confédération paysanne, la conf, qui n'est pas spécialement anti-éolienne, veut pourtant une distribution équitable sur ces territoires et que les éoliennes ne soient pas au service de juste de quelques-uns. Les campagnes doivent rester à la disposition de tous et toutes et la vocation de paysan, c'est nourrir les gens, pas de produire de l'électricité.
Bien dit.
Pour Laurent, un opposant, à 90%, ce courant n'est pas destiné au territoire local, mais à l'exportation. L'Aveyron est autosuffisante en électricité, donc ça profite aux entreprises privées. Mmh. Certains opérateurs pensent que les campagnes sont des lieux dociles, alors qu'il y a plein de gens qui sont contre et qui se sont exprimés dans l'enquête publique. Voilà, donc grosso modo, ce modèle ne sert pas à aller à la fin du nucléaire, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est une accumulation énergétique. C'est pas une transition, mais on dirait qu'il y a un discours pour l'installation de nouvelles sources d'énergie pour un maintien aussi du système nucléaire. Enfin, ça n'empêche pas le système nucléaire de continuer. Donc, il faut éviter de sursaturer... Voilà, vous voyez. J'ai raté ma conclusion.
Mais le reste, c'était très bien.
Ouais, bah c'est Gendarmerie Nationale. Et en plus, c'est Jolie qui est perte. Certains. Ouais, ouais. Mais quoi ce bordel, là ? Gendarmerie Nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Alors, ce mardi 22 janvier est arrivée à l'Assemblée nationale la fameuse loi anti-casseurs. Interdiction de manifester, fichier des casseurs, poursuite des participants et des participantes à des manifestations non déclarées, principe du casseur-payeur. Examinée dans l'urgence en commission, c'est une loi en fait anti-manifestants et anti-manifestations beaucoup plus qu'une loi anti-casseurs qui est concoctée, alors que cela fait maintenant plus de 10 semaines que les Gilets jaunes manifestent. Autant de jours où le pouvoir a toujours matraqué son triptyque incendiaire, lacrymogène, flashball, prison. On compte désormais au moins 109 blessés graves parmi les Gilets jaunes et les journalistes, dont 79 par des tirs de lanceurs de balles de défense. Et au moins 15 victimes ont été éborgnées. En plus d'équiper toujours plus les forces de l'ordre, au point de militariser la répression, le gouvernement espère donc pouvoir aller aussi plus loin sur le volet pénal. C'est tout le but de la loi dite « anti-casseurs ». Il est vrai que dans un pays où l'on fait seulement 36 heures de garde à vue pour un tag Macron démission, où l'on bat le record du plus grand nombre de garde à vue pour un mouvement social, plus de 5000 personnes, il est grand temps de sévir, visiblement. Le texte en question est une proposition de loi émanant en fait du sénateur Bruno Retailleau, qui est un sénateur Les Républicains, intitulé « Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs » et déjà adoptée par le Sénat en octobre 2018. Cette loi est de différentes inspirations, notamment les lois anti-hooligans et anti-burqa. À l'instar des différentes lois antiterroristes, l'exception visant un groupe d'individus particuliers, dans des circonstances particulières et des temps exceptionnels, finit par atterrir dans le droit commun. Tous hooligans, tous casseurs, tous casseuses, tous fichés S. Dans le fond, ce texte de loi envisage de créer un délit de port de la cagoule, un an de prison, un délit de participation à une manifestation non déclarée, ce qui relève d'une contravention aujourd'hui, ou encore un fichier recensant les manifestantes et les manifestants dits violents. Selon l'article 2, le plus insensé, serait interdit de manifestation, je cite, « toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. » Quand c'est flou, c'est flou. Rappelons ici que, encore actuellement, le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. L'absence de notification aux autorités de la tenue d'une manifestation ne rend pas celle-ci illégale. Autre contravention qui pourrait devenir un délit, du coup, voilà, le fait de participer à une manifestation non déclarée. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la fin du droit de manifestation. Enfin, le gouvernement souhaite la mise en place d'un principe casseur-payeur étendu. S'il y a des dégradations commises lors d'une manifestation, toute personne ayant été condamnée dans le cadre de sa participation à cette manifestation pourrait se voir réclamer la facture. Alors cette loi qui a fait un peu gros effet mardi, elle a été examinée à l'Assemblée nationale dans la matinée du mercredi. Et les députés ont essayé d'y apporter plusieurs modifications. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Par exemple, si on regarde l'article 1, qui permettait à l'autorité administrative de mettre en place un périmètre de palpation, fouille, etc., aux alentours de la manifestation, ça a été supprimé. Mais le gouvernement devrait en proposer une nouvelle rédaction lors des débats en séance plénière la semaine prochaine. L'article 2, que je vous ai parlé, c'est là, si quelqu'un a l'air dangereux, eh ben, il n'a pas le droit de venir, qui est quand même le plus polémique, qui prévoit donc la mise en place d'une interdiction de manifester pouvant être prononcée par une autorité administrative, n'a pas été modifiée par la commission. Mais la rapporteure du texte, la députée LRM Alice Toureau, propose de parfaire la rédaction de cet article d'ici l'examen de la proposition de loi en séance la semaine prochaine. L'article 3, qui prévoyait la création d'un nouveau fichier regroupant les noms des personnes sous le coup d'une interdiction de manifester. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cet article 3 ? Les députés de la majorité ont finalement voté pour ne pas créer un fichier de plus, mais ajouter la mention de ces interdictions dans un fichier déjà existant et facilement utilisable par les forces de l'ordre. Nous voilà rassurés. La proposition de loi doit maintenant être discutée en séance plénière par les députés mardi 29 janvier. Oh oh, c'est mardi prochain. Et j'ai entendu dire qu'un peu partout en France, des rassemblements et des manifestations s'organisaient pour dénoncer ce nouveau texte. Les articles les plus critiqués, pour le risque qu'ils présentent d'atteinte à la liberté constitutionnelle de manifester, restent suspendus aux discussions entre gouvernement et les députés de sa majorité. À l'heure où on nous parle d'un grand débat national, il est important que ce ne soit pas la débâcle de nos droits et de rester vigilant et de lutter vraiment contre cette loi et plus largement contre les dispositifs qui s'étendent tous les jours et qui donnent de plus en plus de droits à la répression et à l'interdiction de liberté fondamentale d'expression.
Ces dispositions de loi anti-casseurs, du coup, ont été principalement mises en place contre le mouvement des Gilets jaunes, mais du coup, a priori, à Toulouse, ça lutte encore.
Eh bien oui, parce que Toulouse, ça semble être devenu un point central de la contestation des Gilets jaunes. Tous les samedis, c'est plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent et prennent d'assaut le centre-ville. Alors la police est dépassée par ce raz-de-marée sur la Ville Rose. Les derniers week-ends, ce sont jusqu'à 15 000 personnes qui, jusqu'à la nuit, ont défilé dans le centre-ville, s'attaquant à la police et aux symboles de l'État. Le Capital, place centrale de Toulouse, est complètement repeint. Les caméras de la ville s'enflamment et les vitrines des magasins tombent par dizaines. La marée jaune cible les banques, assurances, agences immobilières et boîtes d'intérim. Alors les murs voient aussi fleurir une poésie riche en imagination. On peut donc lire...
Ce n'est qu'un débat. Le combat continue.
We are all in a yellow submarine.
Alors, Moudinque, c'est le nom du maire de Toulouse. On vient plus en manif ?
Fin du mois, début du nous.
Mets ton gilet, on quitte le navire.
Tout, il faut tout casser.
Castaner, même ton chien te déteste.
On veut du caviar dans nos kebabs.
Gilet jaune, VS parachute doré.
Acte 10, nique la police.
Nique tout, brûle le reste, et dans le doute, caillasse.
Ils ont la police, on a la peau dure.
Ni Philippe, ni Macron, ni la BAC. Non. Ni Philippe, ni Macron, ni la BAC.
Les deux marchent. Chômeuse, go on.
Bourgeoisie, la fête est finie.
Et oui, car plus rien ne semble arrêter l'émeute du samedi qui devient quotidienne. Et même si les autorités pointent du doigt des groupes d'ultra qui seraient à l'origine des débordements, c'est bien à Toulouse la majorité des gilets jaunes qui te soutiennent et même participent à ces débordements. Alors chacun y va de sa personne, hein. Donc on a des groupes de médics qui s'organisent, les chantiers sont naturellement pillés pour alimenter les barricades et les flics sont copieusement caillassés. Et c'est donc avec amitié qu'on souhaite bonne chance aux gilets jaunes toulousains en espérant qu'ils donnent de l'inspiration aux autres villes françaises comme Lyon.
Et à Lyon, demain, le rendez-vous, comme tous les samedis, c'est à 14h, place Bellecour.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et à l'international, on va comme il nous arrive des fois en Italie, et cette fois c'est pour une bonne nouvelle. Parce que aujourd'hui même, ou peut-être hier, je ne sais plus, il y a un tribunal en Sicile qui a préconisé que le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui est aussi au passage le chef du parti d'extrême droite xénophobe, la Ligue Nord.
Un gros con.
Du coup, ce tribunal a préconisé que Salvini soit jugé pour l'affaire de août 2018 où plus de 150 migrants et migrantes avaient été bloqués sur un navire, le navire Diciotti, au bord de Catane. Et Salvini avait interdit au navire de débarquer. Et du coup, ce n'est qu'au bout de 10 jours que ces migrants et migrantes avaient pu descendre de ce navire. Salvini, il avait déjà été à l'époque accusé de séquestration de personnes, arrestation illégale et abus de pouvoir. Parce qu'en fait, il y a des parquets qui avaient considéré qu'il n'avait pas du tout le droit de bloquer autant de personnes dans un navire, sachant que ce bateau n'était pas du tout adapté pour accueillir autant de personnes. Il n'y avait pas du tout les conditions sanitaires de base. Les personnes, elles dormaient par terre. Il y en a beaucoup qui étaient malades. Il y avait des enfants. Voilà, les gens les plus vulnérables ont été faits sortir petit à petit, mais surtout pas assez tôt. Et il y a quand même énormément de personnes qui ont vécu un énorme traumatisme qui se rajoute au traumatisme de l'exil et au passage par la Libye, parce que c'était du coup des personnes migrantes qui avaient quitté la Libye pour rejoindre l'Italie. Du coup, le navire, il les avait quand même croisés sur des eaux à côté de l'Italie. Du coup, voilà, dans le droit maritime que je ne maîtrise pas du tout, bref, c'était quand même prévu qu'ils aillent en Italie et Salvini s'était opposé. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? C'est que il y avait le parquet de Agrigento et le parquet de Palerme qui avaient été saisis pour ces accusations de Salvini pour savoir si poursuivre ces accusations ou pas. Et ils avaient dit, oulala, non, non, on va plutôt archiver cette histoire. Ça a été juste un gros coup médiatique. Ce dossier avait été transmis au tribunal de ministres, qui est le tribunal qui décide si poursuivre ou pas les enquêtes sur des personnes qui font partie du gouvernement. Et contre toute attente, ce tribunal des ministres a décidé que oui, oui, c'était très bien de continuer à enquêter sur Salvini et éventuellement le condamner. Donc là, pour l'instant, il ne va rien se passer sans l'autorisation du Sénat, parce que Salvini, il est aussi sénateur. Et du coup, si la majorité du Sénat autorise, eh ben, y aura cette enquête, il y aura un procès. Salvini, il s'est exprimé sur Twitter, il a réagi et il a dit... Je risque de passer entre 3 et 15 ans en prison pour avoir bloqué l'entrée en Italie d'immigrants illégaux. J'en reste sans voix. Je pose la question au peuple italien. Dois-je continuer à être ministre, à exercer mes droits et à remplir mes devoirs? Ou bien dois-je demander à tel ou tel tribunal de décider de la politique migratoire? Du coup, sans vouloir dire qu'on parle au nom du peuple italien, on a une idée de réponse. Et voilà... sachant que ça, c'était en août dernier et qu'entre-temps, la politique de Salvini envers les personnes migrantes s'est encore durci parce qu'il a dit entre-temps que tout bateau transportant des migrants et migrantes, il sera interdit d'entrer dans un port italien. Donc là, actuellement, il y a un navire d'une organisation humanitaire qui est bloqué sur les côtes italiennes avec 47 personnes migrantes à bord. Et ensuite, il a mis en place, il a fait approuver une loi qui s'appelle la loi sécurité et immigration. Ça dit déjà beaucoup de choses. Qui impose plein de restrictions aux droits des étrangers et aussi aux maires des villes italiennes. Et ce qui est positif, c'est que du coup, il y a petit à petit plein de maires qui sont en train de dire non, non, on ne va pas appliquer cette loi parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Voilà, du coup, certes, on est contre les prisons, mais du coup, on souhaite beaucoup, beaucoup de mauvaises choses à Salvini.
Et maintenant, on va du côté de la Grèce et de la Macédoine parce que vous l'avez peut-être entendu parler dans d'autres journaux. Mais il y a des tensions entre la Grèce et la Macédoine et ça date un peu de 1991, depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Et un peu, qui est-ce qui a le droit d'utiliser ce nom de Macédoine? Et on a la chance d'être avec Mathilde et Yasonas, deux personnes qui sont en Crète et qui vont pouvoir un peu nous éclairer sur la situation. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être dans Scanu Info ce soir. Et est-ce que vous voulez nous rappeler un peu cette historique de la Grèce et de la Macédoine qu'on connaît peut-être mal par ici?
Oui, alors, bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que principalement, donc, la crise politique actuelle et les querelles actuelles, elles sont autour du nom, de l'utilisation du nom de Macédoine. Donc en fait, la Macédoine, pour comprendre un peu, c'est une région donc, des Balkans qui aujourd'hui est divisée en deux pays. Donc, d'une part, l'État de la Macédoine, avec sa capitale Skopje, qui a une population slave à l'intérieur, et d'autre part, une partie de la Grèce, qui s'appelle aussi Macédoine, qui englobe Thessalonique, une des grandes villes de la Grèce. Et donc, l'État de la Macédoine revendique ce nom donc, de Macédoine, et la Grèce n'accepte pas, depuis donc, la partition de la Yougoslavie, la Grèce n'accepte pas qu'il y ait un État qui puisse avoir ce nom, pour des questions d'une part un peu d'héritage culturel, notamment autour de la figure d'Alexandre le Grand, qui était une grande figure macédonienne et que les Grecs revendiquent comme étant uniquement leur héritage. Et d'autre part avec une peur que s'il y a un autre État qui s'appelle Macédoine, qu'il y ait implicitement des revendications territoriales sur la Grèce. C'est-à-dire que puisqu'il y a un État au nord qui s'appelle Macédoine, pourquoi est-ce qu'il ne revendiquerait pas les territoires jusqu'à Thessalonique. En gros, c'est ça le cœur de l'enjeu. Et donc, depuis une trentaine d'années, là, donc depuis la partition de la Yougoslavie, l'État grec, qui fait partie de l'OTAN et qui fait partie de l'Union européenne, bloque par veto systématiquement l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN et à l'Union européenne.
Et alors,
donc,
pour...
principalement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, de toute façon, dans cette région, c'est des États qui sont relativement jeunes, puisque c'est des États qui ont une centaine d'années. Ils sont des États multiethniques, qui sont basés sur le fait qu'il y a eu énormément d'échanges de populations au moment de la fin de l'Empire ottoman. Et donc, on a créé des États un peu artificiellement, avec des échanges de populations. Et que donc, on a créé des mythes nationaux pour créer des États sur ces bases... sur ces bases de puzzle un peu. Et donc ces mythes nationaux aujourd'hui ils entraînent vraiment des querelles nationalistes, notamment par exemple sur ce nom de la Macédoine.
Et pourquoi est-ce que ça fait l'actualité actuellement?
Alors ça fait l'actualité parce que depuis un an, donc depuis janvier 2018, sous pression principalement de l'Union européenne et des États-Unis, il y a des négociations qui sont lancées entre donc la Macédoine et la Grèce pour arriver à un accord autour de cette question du nom du pays, pour déloquer le veto grec sur l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Et donc, ça fait un an maintenant qu'ils sont en discussion. Donc, les États ont réussi en juin à établir un accord qui s'appelle l'accord de Prespes, donc, qui est une ville au nord de la Grèce où se sont tenues les négociations. Et donc, cet accord stipule que l'État, qui s'appelle actuellement Macédoine, va s'appeler République de Macédoine du Nord, pour faire la distinction entre la Macédoine du Sud qui serait grecque et la Macédoine du Nord qui serait cet État. Et donc, à partir de là, l'accord a été négocié entre les deux gouvernements et il devait être adopté à la fois par l'État macédonien et par l'État grec. Et donc, c'est passé d'abord en Macédoine, donc ça a été très très compliqué. C'est passé par un biais de référendum qui a eu moins de 50% de participation, donc qui n'était pas valide, mais comme il n'était pas contraignant, l'État est passé par-dessus, ça a été voté au Parlement, mais c'est passé vraiment de justesse. Donc voilà, il y a eu beaucoup de manifestations nationalistes en Macédoine contre cet accord. Et en Grèce aussi, donc ça a lancé une énorme crise politique. Il y a eu notamment, donc faut comprendre que Alexis Tsipras, le Premier ministre, est assez seul pour défendre cet accord, puisque tous les partis de gauche comme de droite sont contre cet accord pour des raisons diverses et variées. Et donc, il y a eu notamment en une année deux votes de confiance au Parlement qui ont été gagnés de justesse par Alexis Tsipras. Et il y a énormément de mobilisation populaire, notamment en janvier dernier, il y a eu par exemple une manif de 300 000 personnes à Thessalonique sur un pays de 10 millions d'habitants. Donc c'est quand même assez énorme. Ça a lancé aussi des crises diplomatiques avec la Russie, qui, elle, est contre l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN. Et donc, il y a eu des crises diplomatiques entre la Grèce et la Russie. Enfin, voilà, ça a pas mal enflammé la région. Et aujourd'hui, l'accord a été ratifié, donc, de justesse, par le Parlement grec. Et ça a pas mal mobilisé tous les mouvements nationalistes, et notamment d'extrême droite.
Et c'est exactement ce que tu dis, de loin ça paraît être des mouvements très nationalistes et du coup on se demande un peu ce que les camarades là-bas y pensent et comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis de cette crise qui est quand même j'imagine multifactorielle aussi, de qui est-ce qui a du pouvoir entre la Grèce et la Macédoine, comment est-ce qu'on choisit ou pas un nom et du coup un peu quel est le discours des camarades là-bas?
Eh bien là-dessus je peux me passer Yasonas qui va un peu vous faire un petit point sur comment se positionnent les camarades grecs sur la question.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de la position du mouvement en Grèce, du côté gauche et anarchiste autour de cette question nationale. Donc, ça qu'on voit surtout, c'est un grand silence autour de cette question de notre part. C'est difficile à dire, à réagir comme mouvement autour de cette question. Et c'est difficile à analyser toute la situation qui change dans le Balkan, avec les frontières, avec les jeux qu'on a du part de l'OTAN et de l'Amérique, et en même temps les jeux qu'on a de l'autre côté des joueurs, dans le même table, qui est la Russie. On voit la situation en Serbie, le Kosovo, l'Albanie. On voit la pression de tous les côtés, on voit la situation de la Turquie, la situation économique dans la Grèce, presque 10 ans dans la crise. Donc, c'est pas facile comme mouvement à dire que nous, on est contre, pour et pourquoi. Les seuls côtés, groupes ou des gens individuels qui prennent une position dans cette question, c'est plutôt contre cet accord. D'un côté, que c'est un accord qui était fait organiser par l'OTAN, donc ils se préparent pour commencer à changer les frontières dans les Balkans. Donc, et contre cet accord, parce que ça, ça donne.
Oui, c'est pas le choix des populations.
Des places pour le nationalisme de grandir dans notre région. Et un slogan qui est utilisé très souvent les derniers mois, c'est que il n'y a pas une nation, il n'y a pas un nom qui nous unit ou nous divise. Donc on dit plutôt qu'on est avec les gens cette coin de la mer méditerranéenne. On n'a pas divisé des choses avec les gens de travail, les pauvres, les gens qui ont les mêmes problèmes avec nous. Mais prendre une position claire autour de cet accord, c'est difficile pour le mouvement. Mm. Donc c'est pour ça qu'on a un grand silence général. Les gens qui... on est plutôt négatif et il n'y a pas beaucoup de groupes ou de gens qui sont positifs pour cet accord parce que c'est plutôt... si on dit qu'on est pour cet accord, on joue le jeu de Syriza et on n'a pas envie de faire ça.
Eh ben merci du coup, c'était important aussi d'avoir le point de vue des camarades sur place et pas que le point de vue de l'OTAN ou des médias dominants sur la question. Puis de toute façon, on essaiera de reparler même de la situation de la Grèce en général, qu'on essaie de suivre même de loin. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que tu peux répéter? On n'a pas entendu.
Eh ben merci, et du coup, est-ce que vous voulez conclure? Parce que désolé, on manque de temps.
Ouais. Alors, rapidement, c'est simplement pour rappeler que la situation est particulièrement tendue et que le pays est particulièrement épuisé, notamment le mouvement militant par 10 ans de crise, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier ici. Et en fait, là, cette année, c'est une année particulière parce qu'il y a 3 élections, il y a les municipales, les européennes et les législatives en fin d'année. Et c'est vrai que là, toute cette crise politique depuis un an a énormément favorisé l'extrême droite. Et en fait, on voit un retour en force de l'Aube Dorée qui était un peu en dormance depuis quelques temps et qui là a repris énormément de pouvoir, ce qui est quand même assez inquiétant aussi bien pour la situation dans la rue qu'au niveau des urnes.
Oui, et c'est inquiétant, j'ai l'impression, en Grèce et ailleurs en Europe et par le monde aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage et à bientôt.
À bientôt.
Aïe, pardon. Du coup, j'y croyais plus du tout. Mais du coup, que vous dire sur la Hongrie? Juste que la jeunesse et le monde du travail se mobilisent contre les réformes néolibérales de Orban. Mais bien sûr, je pourrais pas en dire plus à part vous dire que tous les samedis, il y a des manifs, du coup, contre à la fois Orban, mais aussi contre ces réformes de code du travail. Mais du coup, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais du coup, tout de suite, ça va être l'agenda, peut-être plutôt dans le Canu Info, vu l'heure qu'il est.
Allez, du coup, agenda.
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda.
Et alors, comme tous les samedis depuis...
On t'entend pas.
Et alors, comme tous les samedis depuis 11 semaines maintenant, il y a une manifestation Gilets jaunes à Lyon. On ne sait toujours pas vraiment quoi en penser. Vous pouvez vous faire votre propre idée en y allant, par exemple, ou pas. Mais voilà, le soir, en tout cas, il y a un apéro-concert au Cédras, le samedi 26 janvier, du coup, demain, à 19h, avec le groupe Terra Canto, qui fait de la polyphonie paysanne d'Italie. C'est à 19h. Le Cédras, c'est sur les pentes à la station de métro Croix-Paquet. Le dimanche, si vous vous intéressez aux causes écologiques et ou environnementales, il y a une chaîne humaine contre la pollution de l'air auquel vous pouvez vous rendre aussi. Et alors, j'arrive pas à voir où est-ce que c'est, mais du coup, c'est dimanche. Et si vous le trouverez, c'est une chaîne humaine de la place des Terreaux à la place Bellecour à partir de 14h30 pour dénoncer notamment la faiblesse du plan oxygène et plus largement pour la justice climatique. Mardi prochain, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous pouvez vous mobiliser pour des conditions d'accueil plus dignes à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, où visiblement il n'y a même plus de savon. Et alors, comment est-ce que vous pouvez aller soutenir le personnel de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu? C'est en allant le mardi 29 janvier, donc mardi prochain, à 18h, au musée Jean Couty, en place Henri Barbus à Saint-Rambert. Alors évidemment, on vous en a déjà parlé tout à l'heure, et je n'ai même pas rappelé ce que vous l'aviez déjà noté, mais dimanche, il y avait l'Assemblée Générale à l'Amphizède, auquel vous pouvez vous rendre et vous retrouver toutes les coordonnées sur le site rebellion.info.
Et il me semble, si je peux rajouter quelque chose, que jeudi prochain, 31 janvier, ah bah voilà, pardon, j'y vais trop vite, mais en fait, du coup, à la Bourse du Travail, il y aura une réunion publique avec deux avocats, avocates juristes sur la nouvelle loi sur l'immigration, avec un focus sur le fichage des mineurs isolés, et sur la mise en place des visioconférences pour les personnes en demande d'asile qui ont fait un recours contre le rejet de leur demande. Et du coup, c'est bien évidemment ouvert à tout le monde, gratuit, à 19h à la Bourse du Travail, jeudi prochain.
Canu Info du vendredi. Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans, et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire à CAV.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Et ouais, cette semaine, ACAB, qu'est-ce que ça veut donc dire? On a perdu la carte de cette semaine, on reçoit des cartes postales toutes les semaines, et pour autant, pour nous donner la solution, et alors c'est, attends, j'aime les casseurs et les casseuses.
Tout à fait, et j'aime aussi...
Le bruit.
Et le bruit, et les barbecues.
Tout de suite, noise pollution.